simplement te dire que ton visage et ton sourire resteront près de moi sur mon chemin. Te dire que c'était pour de vrai tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a fait, que c'était pas pour le faux, que c'était bien. Faut surtout jamais regretter, même si ça fait mal, c'est gagné. Tous ces moments, tous ces mêmes matins, je vais pas te dire qu'il faut pas pleurer, y'a vraiment pas de quoi s'en priver. Et tout ce qu'on n'a pas loupé, le valait bien. Peut-être on se retrouvera, peut-être que, peut-être pas, mais sache qu'ici bas, je suis là. Ça restera comme une lumière qui me tiendra chaud dans mes hivers, un petit feu de toi qui s'éteint.
RTR, Radio Temps Rodez.
L'invité, Fred Hidalgo, journaliste référence de la chanson francophone qui retrace le parcours du chanteur Jean-Jacques Goldman. Récit détaillé avec des entretiens exclusifs, 15 ans qu'il lui en parlait, 30 ans qu'il le côtoie au gré des interviews pour le mensuel Parole et Musique, puis pour la revue Chorus, deux titres qu'il a créés, Fred Hidalgo, qui n'a eu de cesse de proposer à Jean-Jacques l'écriture d'un livre à quatre mains, toujours repoussé. Et finalement, ce livre est sorti. L'amitié entre les deux hommes et l'admiration de Goldman aussi pour le travail d'Hidalgo font ainsi de Confidentiel un livre vraiment unique de plus de 550 pages que tous les fans, bien sûr, comme moi, se doivent avoir dans leur bibliothèque, mais aussi tous ceux qui veulent connaître un artiste à la fois simple, mais un artiste qui a marqué son époque par des chansons beaucoup plus profondes qu'on a voulu le croire dès le départ, un artiste hors norme qui a décidé un jour, à l'instar d'un Brel, d'arrêter sa carrière. Il n'y a que deux chanteurs qui l'ont fait dans leur vie, oui, Jacques Brel et Jean-Jacques Goldman, au fait de leur gloire. Alors c'est ce faiseur de chansons que l'on retrouve dans ce livre, Jean-Jacques Goldman Confidentiel, nourri d'entretiens exclusifs et de nombreuses anecdotes. Mais au fait, Fred Hidalgo, comment est-ce que vous avez rencontré l'auteur de « Quand la musique est bonne » ?
C'était en janvier 1986, très précisément. Jean-Jacques venait de faire le Zénith à Paris. C'était sa première vraiment grande salle, puisqu'auparavant, à Paris, il n'avait fait que, entre guillemets, l'Olympia. Mais je dis que parce que c'était en novembre 1983, il en avait eu une peur terrible. Parce qu'au départ, il ne se voyait pas trop chanter sur scène, et il en garde un souvenir assez atroce encore aujourd'hui, alors que son Zénith de décembre, début janvier, décembre 85, début janvier 86, ça a été vraiment son premier grand plaisir de scène, parce qu'après, évidemment, il s'est pris au jeu. Et nous avions publié, je dis nous, c'est notre équipe et moi, un dossier spécial du magazine mensuel Parole et Musique que j'animais à l'époque. Et on avait mis Jean-Jacques en couverture, on lui avait consacré une vingtaine de pages avec interview, analyse de l'œuvre, commentaires, témoignages, etc. Enfin, un travail comme on avait l'habitude de le faire à l'époque pour Georges Brassens, Jacques Brel, Barbara et d'autres plus jeunes évidemment. Et Jean-Jacques Goldman en avait été très surpris et très, très heureux a posteriori, parce qu'à l'époque, il faut se remettre dans le contexte, la critique ne l'aidait vraiment pas du tout. Il était au contraire honni par la grande presse parisienne, qui ne voyait en lui qu'un chanteur à minette, un chanteur éphémère, à la mode, et vraiment au lieu de critiques professionnelles sur ses chansons, parce qu'on a le droit d'aimer ou de ne pas aimer évidemment, et de le dire et de l'écrire, ça n'était que des insultes, des injures qui s'en prenaient à sa voix, à son physique, à ses vêtements, etc. Et donc le fait qu'une revue... Alors c'est ce qu'il m'a dit aussitôt, hein, en janvier, lorsqu'il m'a invité chez lui, justement. Il m'a dit « Jamais je n'aurais cru qu'un journal sérieux comme Paroles et Musique s'intéresserait à moi. » Parce qu'il était habitué à faire la une des journaux de la presse pour jeunes, comme on disait à l'époque. Vous savez, ces journaux qu'on appelait « Salut »,« Podium »,« OK », etc. Alors que la grande presse, la presse sérieuse, vraiment le vilipendait, c'était... Et il a été vraiment le premier surpris qu'on demande à le rencontrer et à lui consacrer un dossier réalisé tout à fait normalement. Et donc après la parution du numéro, j'ai eu la surprise d'avoir un coup de fil de sa part, parce que sinon c'était quelqu'un que je n'avais jamais rencontré auparavant. Et il m'a invité à aller le voir chez lui dans la banlieue parisienne à Montrouge. Donc je me suis dit, bon bah c'est très très gentil de sa part, c'est peut-être un peu pour solde tout compte, quoi, pour me remercier d'avoir fait ce dossier. Et en fait, bon, il voulait simplement faire connaissance pour savoir un peu plus qui j'étais, quelles étaient les raisons qui nous avaient poussé à le mettre en une, analyser ses chansons, etc.
Alors justement, Fred Hidalgo, qu'est-ce que c'est qui vous a attiré chez lui, alors que vous le disiez à l'instant, à cette époque, on va dire que Jean-Jacques Goldman, quand il démarre, il est plutôt adulé par un certain public plutôt jeune. Et on pense qu'il va faire plutôt une carrière de chanteur à minette, comme vous disiez d'ailleurs tout à l'heure. Donc qu'est-ce que c'est en fait qui a fait tilt chez vous, dans votre équipe, pour que vous le mettiez ainsi à la une? Qu'est-ce qui vous a plu à la première écoute, ou je ne sais pas, au premier regard peut-être?
Alors ni à la première écoute ni au premier regard, parce que je dois reconnaître que le premier album, je suis passé complètement à côté, ou plutôt, comme tout le monde, j'ai entendu ces chansons matraquées à la radio, parce qu'elles étaient matraquées, elles passaient très très souvent, parce que si la grande presse lui a tapé dessus tout de suite, en revanche, les radios se sont dit, voilà, il y a des chansons qui fonctionnent bien, avec des mélodies accrocheuses et tout, et donc son premier album, le deuxième, ont été extrêmement diffusés. Paroles et Musique, c'est un journal donc qui... sans être entre guillemets sérieux, comme m'avait dit Jean-Jacques, c'est un journal qui traitait quand même de la chanson comme d'un art, et on voulait entre guillemets, on était ambitieux, rendre ces lettres de noblesse à la chanson. On défendait peut-être plus finalement les artistes méconnus qui avaient beaucoup de talent, mais qui n'étaient pas diffusés comme il l'aurait dû d'après nous à la radio ou à la télévision. Et donc tout ce qui était matraqué, etc., on avait l'habitude de laisser plutôt un peu de côté. N'empêche que le succès, malgré tout, ça nous a toujours interpellés. On se questionnait toujours sur les raisons du succès. Donc il était normal qu'on s'intéresse de près à quelqu'un comme Jean-Jacques Goldman. Et puis très vite, je me suis dit, il faut quand même que j'écoute les chansons, parce que le matraquage, je le subissais moi à la radio, etc., sans trop écouter, je l'avoue, les textes. Et puis en plus, il y avait quelque chose qui m'avait rebuté au départ, c'était la voix de Jean-Jacques Goldman, qui était criarde. Et il l'a reconnue par la suite, et il l'a améliorée, il a travaillé sa voix, et donc très vite, sa voix n'avait plus rien à voir avec celle du premier album. Et par la suite, Jean-Jacques m'a dit, mais c'est vrai que ce premier album, il est insupportable, j'avais une voix vraiment criarde. Et donc, je me suis intéressé aux textes, et là, les textes, bah, j'ai découvert quelqu'un qui tout d'un coup était en rupture avec les chanteurs de l'époque qu'on adorait, hein, Maxime Le Forestier, Bernard Lavilliers, Renaud, etc., mais qui était plutôt du style révolté, le point levée, etc. Jean-Jacques, lui, il avait décidé de rompre dans les thèmes de ses chansons avec les idéologies et de s'adresser à l'individu en lui disant, bon, le monde tel qu'il est, il n'est pas tel que comme on l'a rêvé, on peut le changer, mais on peut le changer individuellement. Il faut que chacun à sa place soit capable d'aller de l'avant, de franchir des murs, de se libérer par la culture et l'éducation. Enfin bref, toutes ces valeurs positives qui s'adressaient aux jeunes, ça m'a vraiment interpellé, et puis à partir de là, voilà quoi, c'est ça au départ.
Il suffisait d'un signe.
Voilà, message positif, hein, et puis à coup d'olive, je franchirai tous ces murs, etc. C'est vraiment un appel à se prendre en main et à prendre en main son propre destin et ne pas se complaire toujours dans cette situation de victime, quoi. On est victime du système. Lui, il disait tout le contraire. Mais non, on peut le changer, mais c'est chacun à sa place.
Il suffira d'un signe.
Cette rencontre, donc, bien cette première va être la première d'une longue série en réalité, puisque ensuite vous allez vous revoir régulièrement, alors qu'on sait que Jean-Jacques Goldman ne donnait que très peu d'interviews, il n'aimait pas vraiment la presse, donc vous avez eu de la chance de ce point de vue-là.
Effectivement, pendant les 5 premières années, il a été... je disais vilipendé, mais parfois c'était pire encore. Hein. Quand on relit certaines critiques de l'époque, c'est vraiment épouvantable. Hein. Pour avoir travaillé dans la chanson pendant 40 ans, je peux vous dire que les seules critiques de ce genre, il n'y a guère que Brel et Aznavour qui ont pu connaître des critiques analogues. Brel, quand il est arrivé à Paris, qu'il a chanté aux Trois Baudets, le lendemain dans France Soir, il y avait une critique qui disait « Monsieur Brel est belge, il faudrait lui rappeler qu'il y a des trains pour Bruxelles tous les jours ». Alors Jean-Jacques a été vraiment maltraité par la presse, et après, bah, tout simplement... il a été chaudé et puis il a pris des précautions. Et donc, il a donné des interviews en radio, en télévision aussi, pas beaucoup. Mais là, il savait que on ne pourrait pas manipuler ses propos. Hein, il passerait en direct. Mais pour la presse, effectivement, il a pris énormément de précautions. Et en revanche, pendant 30 ans, il m'a accordé tous les entretiens que je lui demandais à chaque sortie de nouvel album, à chaque nouvelle scène. Et en dehors de ça, bon, il y a une amitié qui est née, une confiance totale et sans réserve.
Que l'on retrouve vraiment dans ce bel ouvrage de plus de 550 pages, agrémenté en son centre d'ailleurs de quelques photos. On découvre effectivement un Goldman intime, mais toujours discret, humble, généreux, altruiste. Bref, comme vous le dites vous-même, vous reprenez cette expression d'honnête homme, expression qui définissait donc cet être humain du XVIIIe siècle, hein, qui était un homme à la fois cultivé et discret. En fait, dans ce livre, et selon cette expression même, votre expression, Fred Hidalgo, on a l'impression que c'est un homme presque parfait. J'ai pas vraiment trouvé de défaut chez lui. Alors vous, qui l'avez quand même côtoyé pendant 30 ans, est-ce qu'il aurait pas un petit défaut?
Oui, il en a sûrement, hein. Mais c'est pas des grands défauts. Parce que si j'ai écrit ce livre, j'ai rencontré à peu près tous les grands artistes à travers mon parcours de journaliste. Paroles et musique, c'était les années 80, et après il y a eu Chorus les années 90 et 2000. La revue Chorus a disparu en 2009. Et bon, j'ai rencontré à peu près tout le monde, interviewé à peu près tout le monde, de Charles Trenet à Léo Ferré, en passant par Charles Aznavour et puis tous ceux qui leur ont succédé. Et j'ai écrit très peu de biographies. J'en ai écrit une de Jacques Brel, parce que j'ai eu la chance d'aller aux Marquises sur ses traces et de devenir ami avec les amis que Jacques Brel avait sur place. Et là, j'ai découvert un homme absolument extraordinaire, dans l'anonymat retrouvé, qui s'est mis au service des Marquisiens, au péril même de sa vie, dans certains cas, avec son avion. Jean-Jacques Goldman, c'est pareil. J'ai pas voulu écrire une biographie de plus. Une biographie de plus de Brel, ça n'aurait rien apporté du chanteur. Mais là, j'ai donné à découvrir l'homme qu'il est devenu aux Marquises, après avoir quitté la scène et s'être éloigné des médias. Et Jean-Jacques Goldman, pareil, c'est l'homme qui m'intéresse. J'ai découvert le chanteur, on en parlait tout à l'heure, mais après j'ai découvert l'homme, et c'est un homme absolument incroyable, parce que il a battu tous les records de vente de disques, de fréquentation de spectacles, et il est resté dans la vie quotidienne quelqu'un de d'abord très simple, pour qui tous les signes extérieurs de richesse sont complètement extérieurs au personnage. Très simple, très modeste, mais vraiment humble naturellement, et puis solidaire, rien que pour les Restos du Cœur, puisque tout le monde le sait, il a donné quand même 30 ans de sa vie, et quand je dis 30 ans de sa vie, c'est-à-dire que pendant plusieurs mois chaque année, pendant ces 30 ans-là, il s'est occupé de monter le spectacle des Enfoirés, et bon, je le sais pertinemment, quoi, de l'intérieur, ça lui prenait 2, 3, 4 mois par an. Il concevait le spectacle, il s'occupait de la mise en scène, des décors, de choisir les chansons, de choisir les artistes. Après les spectacles, les répétitions, il vérifiait lui-même tous les rushs qui avaient été filmés pour choisir les meilleurs. Enfin, c'était vraiment un spectacle, j'allais dire, presque à plein temps.
Je ne suis qu'un artiste de variété et ne peux rien dire qui ne puisse être dit de variété, car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas.
Je fuis la rancard à ceux qui n'ont plus rien, sans idéologie, discours ou baratin. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire.
À tous les recalés, de l'âge et du chômage, les privés du gâteau, les exclus du partage. Si nous pensons à vous, c'est en fait égoïste. Demain, nos noms peut-être grossiront la liste.
Donc c'est quelqu'un qui s'est jamais mis en devant. Il a donné le maximum de lui-même sur scène tant qu'il était chanteur. Mais humainement parlant, il fait partie de ces artistes que je mets à part, vraiment totalement à part, quoi.
Et c'est un paradoxe, enfin il y en a plusieurs chez Jean-Jacques Goldman, mais c'est justement l'un de ces paradoxes que d'être particulièrement discret, éloigné, on va dire, de la tourmente du showbiz, des médias, on l'a dit, et pourtant il a arrêté donc sa carrière en 2002, vous le rappelez aussi, vous rappelez les circonstances, mais il reste encore en 2016, jusqu'à l'année dernière, l'une des personnalités préférées des Français. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce paradoxe qui est peut-être qu'apparent?
Oui, oui, c'est incroyable, hein, parce qu'en fait, son dernier album date de 2001, donc Chanson pour les pieds, et c'est plus de 15 ans, et puis sa dernière scène, c'était en décembre 2002, et jusqu'à janvier 2016, vous le rappeliez, il était encore le numéro 1, la personnalité préférée des Français. Bon, il est passé deuxième et puis troisième, puisqu'il y a un sondage tous les 6 mois, peut-être parce qu'il a dit qu'il arrêtait les enfoirés, donc il prenait un peu de recul, mais il reste de toute façon dans le cœur des Français. Alors je pense que, bien entendu, il y a ces chansons qui restent, alors elles, dans la mémoire, dans les oreilles, dans le cœur, parce qu'elles ont parlé à énormément de gens, par sa magie, pour moi, c'est presque effectivement de l'ordre de... C'est un magicien de la musique, de la mélodie. Jean-Jacques Goldman, dès qu'il écrivait une chanson, mélodiquement, il trouvait le petit truc qui allait faire qu'on se souviendrait de la chanson. Et puis les textes, qui sont des textes écrits délibérément d'une façon très simple, hein, il n'a pas essayé de faire du Brassens ou du Ferré, mais qui vont à l'essentiel et qui parlent au cœur des gens. Bon, ça c'est la chose la plus importante à mon avis. Et puis la suivante, bah, c'est sa discrétion et sa générosité, parce que les gens savent bien qu'il s'est impliqué personnellement et qu'il continue de s'impliquer dans bien des causes, des associations, etc., sans que ce soit médiatisé. Voilà, quand l'abbé Pierre était vivant, c'était l'abbé Pierre qui était la personnalité préférée des Français, et Jean-Jacques Goldman arrivait en deuxième position. Et d'ailleurs, à l'époque, il avait demandé, c'était le Journal du Dimanche qui organisait ce sondage semestriel, il avait demandé au Journal du Dimanche d'être retiré de la liste des gens proposés au sondage, parce qu'il estimait indécent qu'un chanteur, c'est-à-dire un saltimbanque, dans son esprit, puisse être comparé à quelqu'un d'aussi important pour la société que l'abbé Pierre.
Particulier dans un village dont le nom m'a échappé, faisait des souliers si jolis, si légers, que nos vies semblaient un peu moins lourdes à porter. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait dire de lui. Il chantait. Un simple professeur qui pensait que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur, ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui.
Un autre paradoxe que vous soulevez dans votre ouvrage Jean-Jacques Goldman Confidentiel, il a presque fait, ça vous l'écrivez dès le début, une carrière malgré lui. Il a dû vraiment prendre sur lui pour embrasser ce métier dans sa totalité. On a l'impression qu'il s'est presque forcé, notamment pour monter, remonter sur certaines scènes. C'était pas aussi évident que ça. D'ailleurs, au bout du 4e album, il pensait qu'il avait déjà tout dit, tout écrit.
Oui, oui, exactement. Ben c'est vrai qu'au départ, Jean-Jacques adorait la musique, évidemment. Il avait une formation plutôt anglo-saxonne, hein, comme beaucoup de gens de sa génération. Et puis un jour, il a eu l'occasion de voir Léo Ferré sur scène, parce qu'il était accompagné par le groupe Zoo. Donc c'était l'époque pop, etc. Léo chantait cet extra. Et là, il s'est dit, mais c'est incroyable, on peut écrire en français, quoi, sur des musiques pareilles. Et donc là, il s'est dit, bah, je vais faire des chansons, mais je vais les proposer aux interprètes, à ceux qui chantent. Et alors là, on est en 1977, 78, 79, et il a proposé ses chansons à plein de gens, y compris à Johnny Hallyday à l'époque. Ça, personne ne le sait, mais Johnny Hallyday, qui ne connaissait pas Jean-Jacques Goldman, a refusé ses chansons sans même les écouter. Et donc, il a eu un certain nombre d'interprètes à l'époque qui l'ont chanté. Et puis un jour, alors Jean-Jacques avait rencontré un jeune éditeur qui débutait, qui était dans la dèche, voilà, il n'y a pas d'autre mot, et qui s'est promené pour placer les chansons de Jean-Jacques. Il s'est promené avec une cassette que Jean-Jacques Goldman avait enregistrée de façon très artisanale. Et un jour, cet éditeur qui s'appelait Marc Lombroso est allé chez CBS, chez Epic exactement. Et il a fait écouter la cassette à un directeur artistique, et à la fin, le directeur artistique a dit « Ben moi, ça m'intéresse, effectivement. » Alors, Marc Lombroso pensait qu'il allait lui conseiller tel ou tel interprète, et il lui a dit « Mais non, moi, ça m'intéresse, mais à condition que ce soit le chanteur, celui qui chante les chansons sur la cassette, qui les enregistre lui-même. » Et à ce moment-là, Jean-Jacques Goldman s'est trouvé au pied du mur. Alors, ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire. Et puis, Jean-Jacques a dit, bon, bah, pour un disque, allons-y, banco. Et donc, il a enregistré le disque, mais il n'avait aucune intention de faire de la scène. Et il a fallu qu'il attende. Alors ça, on est en 81 pour son premier album. Il a marché tout de suite avec Il suffira d'un signe. Et puis, il y a eu le deuxième album. Et alors là, il a marché encore plus fort avec des chansons... deux, trois chansons qui ont été des tubes presque immédiatement. Et il a fallu qu'il attende, en fait, jusqu'au 31 décembre 1982 pour quitter l'emploi qu'il occupait dans le magasin de sport de ses parents, où il vendait, avec son frère, il vendait des chaussures de sport, des vêtements, etc. Parce qu'il ne se voyait pas du tout en chanteur, quoi, lui-même. Il avait accepté de faire deux albums. Mais à ce moment-là, avec le succès venant et avec le courrier abondant qu'il recevait déjà, on lui disait « Mais bon, maintenant, on veut vous voir sur scène. Quand est-ce que vous allez monter sur scène ?» Donc il s'est dit « Ou bien j'arrête. » Et bon, il ne pouvait plus. Là, décemment, il avait déjà vendu quasiment 1 million d'albums, d'exemplaires de chacun de ses deux premiers albums. Il s'est dit « Il faut vraiment que je monte sur scène, sinon ce serait tricher par rapport aux gens qui m'écrivent et qui ont acheté les disques. » Donc il s'est forcé à monter sur scène. Il a monté une petite tournée en novembre 83 donc vous voyez, hein, 81, 82, 83, il a fallu attendre fin 83 pour qu'il monte enfin sur scène. Il y est allé à reculons, mais entre guillemets par devoir envers son public. Et puis sa première grande scène, ça a été l'Olympia. Et là, je vous le disais tout à l'heure, il en conserve un souvenir atroce, c'est-à-dire qu'il n'en conserve en fait aucun souvenir. Bon, il m'a dit qu'il était toujours tendu, minute après minute, sur ce qu'il allait dire et chanter pendant tout le spectacle. Et c'est à tel point, il avait tellement peur de ce spectacle à Paris, qu'il a refusé d'inviter ses parents. Il leur a dit qu'il ne fallait pas qu'ils viennent. Et donc ses parents ne sont même pas venus à l'Olympia. Voilà, et puis bon, après il s'est pris au jeu, il a commencé à prendre goût à la scène, il s'est entouré d'artistes, de musiciens, qui sont devenus des amis, etc. Et puis il lui a toujours fallu en gros une quinzaine de jours pour se sentir à l'aise, mais toutes les tournées qu'il a pu faire ensuite, il s'est pris au jeu, et puis voilà, il a fini par adorer la scène.
Ça, mais ça ne s'achète pas. Et je m'en fous. Je m'en fous de tout. De ces chaînes qui pendent à nos coups. Je m'enfuis. J'oublie. Je m'enfuis par tes insurcis. Je marche
seul dans les rues qui se tordent et la nuit me pardonne, je marche seul. Je suis riche de ça, mais ça ne s'achète pas. Et je m'en fous, je m'en fous de tout, de ces chers qui prennent la roue. Et je m'en fuis, j'oublie, je me fous par tes insurcis. Je marche seul dans les rues qui se tombent. Oui, me pardonne, je marche presque seul. En oubliant les heures, je marche seul. Sans presque aucun témoin, sans presque personne. Que mes pas qui résonnent, je marche seul.
Hidalgo, Jean-Jacques Goldman, Confidentiel, c'est donc le livre pour tous les fans, mais pour tous ceux aussi, et ils sont encore plus nombreux, qui veulent connaître la vie d'un artiste à la fois simple, mais qui dans cette simplicité arrivait à dire des choses extrêmement profondes à son public et dans ses chansons, comme quoi les chansons et certaines chansons populaires, eh bien, il faut être un véritable grand artiste pour pouvoir les écrire et les interpréter. C'était le cas de Jean-Jacques Goldman, qui, dans cet ouvrage, ça ressort aussi très bien, en fait, a eu, moi, je dirais, deux carrières menées presque de front, même s'il y en a une qui a démarré avant l'autre. La première, c'est celle donc de l'auteur, compositeur, interprète, aux millions de disques. Et puis, la seconde, quand même, et presque concomitamment pendant plusieurs dizaines d'années, son engagement au Resto du Cœur, engagement qui, finalement, va être plus long de 10 ans que sa carrière de chanteur, même si il avait failli, et vous le rappelez très bien et en détail dans l'ouvrage, il avait failli en fait arrêter sa collaboration avec les Enfoirés au 20e anniversaire des Restos. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode-là?
Oui, exactement. Alors là, il me l'a dit lors d'une interview officielle pour la revue Chorus dont je vous parlais tout à l'heure, c'était en 2005. Et comme son dernier album datait de 2001, normalement il mettait 4-5 ans entre deux albums, et j'avais demandé à le voir, et on était allé le voir à Marseille, puisqu'il avait quitté Paris, il s'était installé avec sa nouvelle épouse dans l'appartement d'ailleurs d'étudiante de sa nouvelle épouse à l'époque, comme quoi les Goldman et le luxe et les signes extérieurs de richesse, ça fait deux. Et donc là il m'a dit, bah non, en fait... voilà, ben j'ai décidé de faire une pause, mais ça fait déjà 3 ans que ça dure, et à mon avis, ça va encore durer un certain temps, et peut-être que je remonterai sur scène, mais j'attendrai certainement que ma fille, bon, il venait d'avoir une deuxième fille, et la première était encore toute jeune, et environ 10 ans, et là je remonterai peut-être sur scène pour lui montrer que son papa avait un métier. Et donc je lui ai parlé, alors je lui ai dit, donc alors tu arrêtes quoi, en fait. Il m'a dit oui j'arrête. Il dit, mais bon, c'est pas définitif, peut-être que je remonterai sur scène. Et les Restos du Cœur, alors il dit, bah j'arrête aussi, parce qu'en fait l'envie s'est enfuie. J'ai remisé ma guitare dans un placard, et donc voilà, j'ai tout simplement plus l'envie. Et bon, ça c'est moi qui l'ajoute. Le fait qu'il ait changé changer de vie, qu'il se soit remarié, qu'il ait eu deux petites filles, et puis il y a une troisième qui allait arriver ensuite. Bon, il s'est dit que la vie lui donnait une deuxième chance surtout de pouvoir s'occuper de ses enfants, parce que dans la première partie de sa carrière, ses trois premiers enfants, il a quand même eu l'impression de les avoir énormément négligés. Pas délibérément bien sûr, mais parce qu'il était toujours par Mons et par Vaux. Je vous disais qu'il avait battu tous les records de fréquentation de spectacles, et c'est vrai qu'il a fait des tournées extrêmement longues, et donc bah, ses enfants se sont élevés tout seuls avec leur mère, et donc il a décidé de prendre du temps et de tout arrêter, y compris les Restos du Cœur. C'est ce qu'il m'avait confié à l'époque. On était en juillet 2005, à la veille du 20e anniversaire des soirées. Ouais. Sauf que lorsque l'interview est parue, il y a eu une espèce de buzz dans la presse. C'était pas encore sur Internet.
Ça s'est emballé.
Voilà, ça s'est emballé tout d'un coup. Et Jean-Jacques, est revenu un peu en arrière par rapport aux Enfoirés, parce que, disons qu'il y a eu cette espèce de buzz, là, les radios, les télés, etc. Tout le monde m'a téléphoné pour me demander, alors c'est vrai, Goldman arrête, etc. Et les Enfoirés. Et donc, bah, il a décidé de continuer les Enfoirés. En fait, il a continué pendant 10 ans encore. Mais à l'époque, il m'avait bien confié déjà qu'il avait pris soin avec les responsables des Enfoirés d'assurer la relève, de faire en sorte que... Bon, il a continué 10 ans, tant mieux pour les Enfoirés. Mais là, il s'est retiré officiellement, donc au mois de mai 2016. Mais sachant qu'il avait pris toutes les dispositions nécessaires pour qu'il continue malgré son départ.
Puisque l'ombre gagne, puisqu'il n'est pas de montagne, au-delà des vents plus hautes que les marches de l'oubli, puisqu'il faut apprendre, à défaut de le comprendre, à rêver nos désirs et vivre des ainsi soit-il. Et puisque tu penses comme une intime, parfois même tout donner n'est pas forcément suffire, puisque c'est ailleurs qu'ira mieux battre ton cœur, et puisque nous t'aimons trop pour te retenir, puisque tu pars.
C'est là, Fred Hidalgo, qu'on fait aussi appel à l'ami. Vous avez eu des confidences là-dessus. Il reviendra plus du tout, ni au Resto du Cœur, ni dans un studio, ni devant son public. C'est vraiment terminé pour de bon.
Alors, pour les Restos du Cœur, je peux vous dire ce qu'il a déclaré lui-même publiquement, hein, c'est-à-dire qu'il reviendra volontiers comme invité, hein, cette fois-ci, non plus comme coordinateur, etc., parce que il vient d'avoir 65 ans au mois d'octobre dernier, et il estime tout simplement qu'il est temps de passer la main à plus jeune que lui, et que en même temps, il se sent un petit peu déconnecté du monde de la musique actuelle. Donc voilà, c'était tout à fait compréhensible. Mais il a dit, si on fait appel à moi dans les années qui viennent et que je sois encore présentable, je reviendrai volontiers. Bon, ça c'est pour les enfoirés. Pour la scène et pour le disque, c'est une autre paire de manches. Alors, officiellement, il ne devrait plus revenir. Bon, je dis officiellement parce que l'envie s'est enfuie, il n'a cessé de me le dire et de me le répéter au fil de ces dernières années. N'empêche que j'ai été le premier à lui dire que personne ne pouvait jamais dire jamais, que c'était faire insulte à la vie, et donc il n'a jamais dit jamais lui-même. Pour refaire un disque, pour refaire de la scène, il faut que l'envie revienne. Alors, peut-être qu'elle reviendra, et à ce moment-là, je peux vous assurer qu'il n'a perdu ni inspiration, ni tous ses dons qu'on lui connaît, de magicien du note, de la note et du verbe, et que si l'envie lui revenait, disons demain, de refaire un disque dans les 3 mois qui viennent, et un excellent disque, moi je sais qu'il en est parfaitement capable.
Donc il est capable effectivement de réécrire, contrairement à ce qu'on a pu entendre ici ou là de la part de certains journalistes ou commentateurs qui disaient oui, mais non, en fait il a arrêté parce qu'il n'a plus rien à dire, il est sec, voilà. Il est incapable d'écrire une nouvelle mélodie ou une nouvelle chanson. Donc ça, vous vous inscrivez en faux vraiment, Fred Hidalgo, contre cette hypothèse en fait. Hein.
Oui, on a entendu dire qu'il n'avait plus d'inspiration, etc. Non, ça, je m'inscris totalement en faux, parce que, en plus, je sais bien qu'il continue de noter des petits mots comme ça. Il a une façon à lui de noter des bouts de phrases, etc. Et puis, le jour où il aura envie, si ça revient, eh bien, il trouvera les mélodies, il agencera les mots, il en fera des chansons. Et non, ça, ça reste le grand artiste que l'on connaît. Et c'est bon, simplement, c'est comme Brel, à un moment donné, il n'a plus envie de faire de la scène, il a tout coupé du jour au lendemain, il s'est acheté un bateau, il est parti. Bon, Jean-Jacques, il est parti à sa manière aussi, qui est différente, mais qui est quand même assez proche de Brel, parce que dans l'histoire de la chanson française, il n'y a que deux artistes, hein, Brel et Goldman, qui sont partis comme ça de leur plein gré à l'apogée de leur carrière, alors qu'ils auraient pu continuer 25, 30, 35, 40 ans s'ils avaient voulu, hein, comme Charles Trenet l'a fait ou comme Charles Aznavour continue de le faire.
Alors dans le questionnaire de Proust que l'on trouve dans votre ouvrage, vous lui avez adressé notamment une question, celle de l'endroit où il voudrait vivre. Hein. Je crois que ce questionnaire c'est date de 2002 et il répond « ici ». Et pourtant, il vient de s'exiler là-bas, outre-Manche. Alors comment vous expliquez ce déménagement et finalement, est-ce qu'il n'a pas là aussi un petit peu changé d'avis ?
Oui et non, c'est-à-dire qu'il était un petit peu contraint par les circonstances. Enfin, il est parti délibérément, mais parti, c'est pas un exil définitif. Déjà, il est revenu plusieurs fois en France et puis chez lui à Marseille depuis le mois de novembre, puisqu'il s'est installé à Londres en novembre. Il a loué une maison pour 2 ans, en fait. Alors, d'abord, pour ses filles, il s'est dit que c'était bien de les installer dans une école à Londres, parce que comme ça, elles avaient toutes les chances de devenir parfaitement bilingues, de leur faire découvrir une autre culture, donc c'est toujours bien, hein, les voyages forment la jeunesse. Mais aussi, comme il a annoncé son départ des Enfoirés au mois de mai, il s'est dit très certainement que les médias aller tenter d'en savoir plus, pourquoi il quittait les Enfoirés, et puis ce qu'il pensait des Enfoirés sans lui, etc. Donc en mettant un peu d'éloignement entre les médias et lui par rapport aux Enfoirés, c'était dans son esprit certainement retirer de la pression aux Enfoirés, les laisser tranquilles pour monter leur spectacle comme il le souhaitait, sans avoir cette espèce d'ombre tutélaire de Jean-Jacques Goldman au-dessus de leur tête, avec surtout les médias qui auraient cherché à en savoir plus sur ce qu'ils pouvaient penser des médias, des Enfoirés sans lui, etc. Mmh. Donc voilà, il n'y a pas d'autre raison, et puis ça n'est qu'un exil très proche.
Alors, apparemment, on a lu quand même aussi qu'il craignait les prochaines élections, donc il y avait peut-être aussi, en France, hein, les élections présidentielles, il y aurait peut-être quand même quelques raisons politiques.
C'est vrai que la période, là, elle est vraiment très, très troublée en ce moment, mais enfin, c'est pas ça qui a fait partir Jean-Jacques Goldman. Il va pas fuir pour ça, mais on a parlé, vous savez, aussi d'exil fiscal au début, ce qui était absolument ridicule. Jean-Jacques Goldman, s'il avait voulu ne pas payer ses impôts en France, il y a au moins 20 ans qu'il serait parti s'installer à Monaco.
Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Plutôt en Suisse, d'ailleurs.
Oui, bah, comme beaucoup de sportifs.
Ou de chanteurs aussi.
Ou de chanteurs aussi, c'est vrai, ouais. Et donc, bah, là, il continue de payer ses impôts. Enfin, il continuera de payer ses impôts en France. Et ses droits d'auteur, essentiellement, qu'il perçoit par la SACEM. Donc ça, c'est des procès d'intention qu'on lui fait absolument infondés et souvent malveillant d'ailleurs.
Peut-être parce que justement, eh bien, il ne répond pas directement aux questions. Alors, il laisse forcément la porte ouverte à un certain nombre d'hypothèses que se plaisent évidemment à utiliser, à répandre ceux qui veulent vendre du papier. Mais ça, vous connaissez forcément ce système-là.
Et puis beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui, bien à l'abri de l'anonymat. Oui, mais vous avez raison de dire qu'il ne répond jamais, parce que déjà à la grande période, donc les années 83, 84, 85, jamais il n'a répondu à la presse. Hein, il a toujours laissé dire, laissé faire, et il n'a jamais fait de procès, il n'a quasiment jamais demandé droit de réponse, une fois, je crois. Donc voilà, c'est quelqu'un qui préfère, qui pense, il me l'a dit plusieurs fois, hein, parce qu'il y a eu des biographies qui sont parues, et je lui ai demandé si on lui a demandé son accord et tout, mais non, mais de toute façon, ça passe. Voilà, demain, on parlera de l'augmentation du prix du baril de brut, et puis des grèves ici ou là, et tout passe, alors c'est pas
tout lasse.
Voilà, tout lasse.
Alors, on pouvait aussi, peut-être par hypothèse, penser que, après coup, après cette histoire polémique autour de sa chanson en 2015, Des Enfoirés, il en voulait quand même un petit peu à une certaine partie, justement, alors à la fois de la classe médiatique, mais aussi de ceux qui s'étaient déchaînés et qui sont pas forcément là des médias, comme vous le disiez tout à l'heure, sur les réseaux. Est-ce que cette histoire de cette chanson qui a été mal comprise, hein, quand même, par bon nombre, a laissé des traces chez lui?
Oui, ça a laissé des traces, et je pense qu'il a été blessé de ça, mais il n'en a pas voulu, hein. C'est quelqu'un, c'est pour ça que je me suis intéressé à l'homme, enfin que j'ai voulu en faire un livre, parce que je me suis dit à un moment donné, il faut vraiment que les gens qui le perçoivent comme ça en majorité, soient convaincus qu'il est réellement comme ça, que ça n'est pas un faux modeste et tout, parce que la presse lui a fait ce procès également, hein, lorsqu'il a sorti son dernier album, la grande presse parisienne l'a accusé de faire du marketing en donnant l'impression de pas en faire. Enfin bon, c'était vraiment des théories absolument invraisemblables. Et donc, quand je dis que il n'en veut jamais à personne, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas de bouc émissaire. Et puis bon, il vient d'une famille, il a des racines justement où on sait ce que c'est, les boucs émissaires. Il prend tout toujours sur lui-même. C'est-à-dire que le soir même où il a essayé pour la première fois de sa vie de remettre un peu les pendules à l'heure par rapport à cette chanson, Toute la vie, qui avait créé une polémique invraisemblable, il était passé au grand journal de Canal+, hein, ça avait duré 3 minutes, mais il avait... par l'humour, il avait mis fin complètement à cette polémique, et je lui ai dit, j'ai envoyé un petit mot tout de suite en lui disant chapeau, parce que franchement, moi, j'aurais jamais pensé à ça, mais c'est d'ailleurs mettre les rieurs de son côté en montrant l'absurdité de cette polémique. Il m'a répondu instantanément, n'empêche que la prochaine fois, je ferai davantage attention. C'est-à-dire que pour lui, il y avait quelque chose qu'il avait peut-être mal dit, mal écrit dans sa chanson. Et donc, au lieu de dire c'est la faute des gens qui n'ont pas compris, qui ont mal interprété cette chanson, tout de suite, il s'est dit j'ai dû faire une erreur quelque part. Donc, c'est ça qui est formidable chez Jean-Jacques Goldman, quoi. Il ne cherche jamais à rejeter la faute sur qui que ce soit d'autre. Il s'interroge toujours sur ce qui peut-être chez lui n'a pas fonctionné comme il l'aurait voulu, quoi. Parce qu'effectivement, cette chanson, en fait. Elle opposait deux points de vue, mais c'était les anciens qui disaient aux jeunes, on n'a pas réussi à faire un monde meilleur, ça c'est sûr, On a loupé notre coup, mais bon, maintenant, c'est à votre tour d'essayer de faire mieux que nous, quoi. Enfin, bref, voilà. C'était le clip. Quand la chanson est sortie, il n'y a pas eu de réaction particulière. Mais quand il y a eu le clip, ça a été la violence, peut-être, des images, des anciens et des modernes qui s'opposaient.
Oui, la fameuse querelle.
Des portes closes et des nuages sombres, c'est notre héritage, notre horizon. Le futur et le passé nous encombrent. Avez-vous compris la question?
Non.
Vous avez tout l'amour et la lumière.
On s'est battu, on n'a rien volé.
Nous n'avons que nos dégoûts, nos colères.
Mais vous avez, oui vous avez toute la vie.
Est-ce que vous pensez que Jean-Jacques Goldman, aujourd'hui, a des héritiers dans la chanson française? Est-ce qu'il y a aussi, peut-être, pour vous, vous qui êtes un fin observateur de cette chanson française et francophone en général, est-ce qu'il y a un nouveau Jean-Jacques Goldman en vue?
Je suis tenté à vous dire, de vous répondre non, et puis d'en rester là. parce que, bon, il y a des gens qui font partie de sa famille... Mais héritier direct, non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Il a des grands amis dans la chanson de son âge, comme Francis Cabrel ou Alain Souchon. Mais héritier, franchement, quelqu'un qui ait cette façon de toucher les gens immédiatement, avec un message positif, jamais larmoyant, je n'en vois pas.
Donc vous diriez, Fred Hidalgo, que on en a peut-être fini maintenant dans cette période avec les monstres sacrés, Brel, Ferré, Ferrat, Souchon, Cabrel, j'en oublie, hein, jusqu'à Goldman, c'est terminé maintenant. On est plutôt dans le one hit wonder ou des choses qui vont passer et on zappe beaucoup et malheureusement c'est aussi un petit peu ça porte ses fruits aussi en matière de musique, c'est-à-dire que finalement on passe la nouvelle génération, elle passe 10 ans et puis terminée, on les oublie très rapidement.
Et oui, le constat est là, effectivement, vous avez raison. Alors, je mettrai un bémol, simplement, c'est que les artistes, le talent, la qualité sont toujours là, mais souvent, aujourd'hui, il faut aller les dénicher, il faut aller dans les festivals, les découvertes, les salles partout dans les régions. Pour savoir qu'ils existent et qu'ils pourraient faire un nouveau Goldman et un nouveau Brel, peut-être un nouveau Brassens, etc. Enfin, chacun à sa façon, bien entendu. Si l'industrie du disque ne s'était pas écroulée, si les médias n'étaient plus pour l'essentiel, hein, je parle des grandes chaînes de télévision, de beaucoup de journaux nationaux entre les mains de quelques milliardaires.
Oui, c'est pas le cas de notre radio.
Hein. Non, je sais bien. Et voilà, les conditions, si vous voulez, dans lesquelles évoluaient tous ces artistes, hein, jusqu'à la génération des années 80-90, mettons, hein, avec la nouvelle vague qui était symbolisée, si vous voulez, par Juliette, Thomas Fersen, Clarica, Agnès Bill, enfin bon, les têtes raides, tous ces artistes-là. Eh bien, aujourd'hui, c'est vrai que les conditions ne sont plus du tout réunies pour réussir une carrière. C'est-à-dire, avant, les maisons de disques, par exemple, suivaient les artistes pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 albums. C'est ce qui était arrivé à Michel Jonas, qui a mis longtemps avant d'accéder vraiment à une grande popularité. Et pendant ce temps-là, sa maison de disques continuait de le suivre. Maintenant, c'est fini. L'autre jour, j'étais avec Cali, qui est un ami, qui tourne aujourd'hui avec un spectacle en solo, qui vient de sortir son 7e album, et qui me disait, mais c'est pour le plaisir de sortir encore des albums, puisque de toute façon, aujourd'hui, plus personne n'en vend, sauf cas exceptionnels, hein, comme le retour de Renaud, mais c'est fini. Maintenant, les artistes ne vivent plus qu'avec la scène, et plus du tout avec le disque. Donc les conditions ne sont plus du tout réunies pour que, malheureusement, on continue d'avoir des artistes qui connaissent une grande carrière et dont les chansons parlent à la mémoire collective. Maintenant, on va de plus en plus vers les micro-publics et les chapelles.
C'est ça, les communautés, voilà. Comme l'indiquent d'ailleurs les réseaux communautaires. Hein.
Exactement.
Alors, justement, juste une parenthèse, j'ai vu sur votre blog que vous étiez effectivement avec Cali, et donc j'invite nos auditeurs à aller lire et voir aussi les photos des dernières rencontres que vous avez eues avec le chanteur des Pyrénées-Orientales.
Oui.
Vous êtes installé. Non, pas que des Pyrénées-Orientales, heureusement. Juste une dernière question par rapport à Jean-Jacques Goldman. On a commencé par lui, on va finir par lui. Vous avez des nouvelles et quelles sont ces dernières nouvelles?
Oh, ben, vous savez, il est revenu pendant les vacances de Noël, entre Noël et jour de l'an. Il est revenu en famille pour retrouver justement tous ses enfants, ses petits-enfants à Marseille, etc. Et puis il est reparti, et comme souvent il le fait, bah, pendant les vacances, comme c'est le cas aujourd'hui, bah, il part en vacances, en famille.
Donc c'est la simplicité en fait.
Mais c'est la simplicité, c'est-à-dire que là-bas à Londres, bah, il accompagne ses trois filles à l'école tous les jours. Bon, il pensait être un peu plus tranquille qu'il ne l'est, puisqu'il y a eu des hebdomadaires People, des journaux People qui ont sorti des informations avec des photos volées pendant qu'il accompagnait ses filles à l'école, etc. Mais bon, maintenant qu'on sait qu'il est installé là-bas, je pense qu'ils vont lui laisser plus de tranquillité. Bon, ils vont pas reprendre toujours la même photo, j'imagine. Donc voilà, il va vivre sa vie au quotidien. Vous savez, il fait du sport, il court. Voilà, il lit la presse, il reste toujours très très informé de ce qui se passe dans le monde. Mais pour le moment, il a vraiment tourné la page de la musique.
Et enfin, là, ce sera vraiment ma dernière question, Fred Hidalgo. Quand vous avez envie d'écouter du Goldman, quel est l'album, ou peut-être quel est le titre ou les titres que vous mettez sur la platine encore aujourd'hui ou dans l'autoradio?
Oui, bah à peu près tous les titres, mais
c'est facile.
Non homologué, qui est d'ailleurs l'album préféré de Jean-Jacques. Je ne suis pas loin de penser aussi que c'est son meilleur. Bon, j'ai des affections particulières pour certaines chansons comme Veillez tard ou Confidentiel, qui est le titre du livre. Veillez tard, disons simplement que ça a été une chanson fondatrice pour les gens qui aiment Jean-Jacques Goldman. Et c'est une expression que j'emploie parce que c'est celle qu'il utilise lui-même. Il dit même les gens qui me suivent, parce que jamais il n'a voulu parler de fans à son endroit, parce qu'il s'est jamais, lui, vu en vedette et encore moins en star. Et donc, à un moment donné, cette chanson qui dit voilà, tous ces liens que l'on sécrète, qui joignent les êtres, c'était un peu une chanson magique entre lui et le public qui a permis de lier de nouer des liens, donc c'est une chanson que j'adore. Et puis évidemment, ça c'était une chanson tout d'un coup qui était un petit peu en rupture avec ce côté positif dont je parlais dans ces thèmes. Ça a été Comme toi qui montrait, c'est une chanson magnifique que Jean-Jacques Goldman interprète aussi à un moment donné au violon, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est un grand, grand musicien, Jean-Jacques Goldman, un grand guitariste, un excellent violoniste, un très bon pianiste aussi. Voilà, mais je pourrais vous en citer d'autres, jusqu'à la fin.
Je m'en doute. En tout cas, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de tout, on a même parlé de pas grand-chose, il faut bien le dire, tellement ce livre est riche, Jean-Jacques Goldman, Confidentiel. Mais le mieux, c'est quand même de se le procurer et de retrouver eh bien toute cette époque des années 80, même un petit peu avant, la période des restos, et puis cet homme donc d'une simplicité étonnante et pourtant qui rayonne aujourd'hui encore et pendant longtemps, je pense, sur la chanson française, et tant mieux pour nous. Donc merci beaucoup Fred Hidalgo d'avoir été mon invité pour parler de cet ouvrage, c'est vrai, exceptionnel, qui était attendu. On aurait pu dire aussi, voilà, vous l'avez couvé, entre guillemets, pendant plus de 30 ans, hein, ce livre, quasiment. Je suis sûr que l'idée vous est venue dès que vous avez rencontré Goldman, quasiment.
Oui, en tout cas, je vais proposer d'écrire un livre à quatre mains dès 1991.
Oui.
Oui, donc c'est récent.
C'est-à-dire 5 ans après l'avoir rencontré.
Voilà, on pourrait dire que Jean-Jacques Goldman ne lira pas peut-être ce livre, que voilà, il n'est ni pour ni contre, bien au contraire. Bref, il y a plein de choses à découvrir donc dans cet ouvrage, et on laissera au soin au lecteur bien sûr de se faire aussi une idée sur ce personnage. Merci en tous les cas déjà pour ce moment passé avec vous, Fred Hidalgo, et peut-être à bientôt.
C'est moi qui vous remercie, c'est très gentil de m'inviter. À bientôt.
RTR, Radio Temps Rodez.
Lueur immobile d'un jour qui s'achève. La plainte douloureuse d'un chien qui aboie. Le silence inquiétant qui précède les rêves. Quand le monde est disparu, l'on est face à soi. Les frissons où l'amour et l'automne s'en mêlent. Le noir où s'engloutissent notre foi, nos lois. Cette inquiétude sourde coule en envers. Qui nous saisit même après les plus grandes joies. Ces visages oubliés qui reviennent à la charge. Ces étreintes qu'en rêve on peut vivre cent fois. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines. Les choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Ces paroles enfermées que l'on n'a pas su dire. Regard insistant que l'on n'a pas compris. Les appels évidents, ces lueurs tardives. Ces morsures regrets qui se livrent à la nuit. Ces solitudes dignes au milieu des silences. Ces larmes si paisibles qui coulent, inexpliquées. Les ambitions passées, les auxquelles on repense. Comme un vieux coffre plein de vieux jouets cassés. Ces liens que l'on sécrète et qui joignent les êtres. Ces désirs